Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct. Et par extension, ou un musulman.
Est-ce qu'il faudra tirer ses références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, monsieur, bonjour, salam, azoul, bienvenue à vous sur les ondes positives de Au cœur de l'islam, kayf al-ahwal, avec cette courbe descendante pour l'année grégorienne, mais montante pour l'année égyrienne. Beaucoup d'événements se déroulent autour de nous, titillant, provoquant et même mettant à rude épreuve nos conceptions, convictions et consciences à l'égard de ce que nous croyons vérité unique et ce en quoi nous pensions bien bâti, bien fort et abouti, j'ai nommé la foi. Mais hélas, de Carib dans Silla, l'on se rend compte que l'on continuera à travailler sur nous-mêmes jusqu'au dernier souffle contre vents et marées. Nous sommes nés Dakar Aounta, mais nous continuerons à travailler sur nous-mêmes pour devenir un homme ou une femme. Ceci est l'affaire de toute une vie. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bonne remarque. Moi, je ne savais pas sur quoi vous alliez aboutir, mais quand vous dites oui, il faut travailler toute une vie pour devenir homme, ou bien une véritable femme. Oui, c'est vrai.
On dit qu'on est d'accord ou unta.
Oui, oui, d'accord. Mâle ou femelle.
C'est ce qui est noté sur notre registre, sur le premier.
Oui, et c'est à juste titre. Donc,
acte
que
de
Dieu
naissance.
Dit, min al-mu'minin al-rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Des hommes, bon, ici, le mot rajoul signifie homme et femme. Hein. C'est pas uniquement l'un des deux sexes. Et donc.
Je vous prierai de continuer ce verset que j'adore, Kamel Shekat.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه, c'est-à-dire qu'ils ont été véridiques, sincères quant à leur engagement pris vis-à-vis de Dieu. فمنهم من قضى نحبه, certains d'entre eux sont morts. ومنهم من ينتظر, certains d'entre eux attendent encore. Et puis ce qui est bien, c'est justement rester fidèle à ces principes. وما بدلوا تبديلا, ils n'ont apporté aucun changement à ce qui a été justement légué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir toute cette religion.
Rabbi ja'alna minhum.
Amin ya Rabbi.
Il y a eu une étude Kamel Shekat d'un jeune musulman très savantissime qui avait travaillé sur les versets 23, 24, 25 de la sourate Al-Ahzab, oui. Et qui a collé ces versets justement à ce qui s'est passé en Palestine, au Proche-Orient depuis le déluge d'Al-Aqsa.
Oui. J'ai vu cette publication, oui, elle colle.
Est-ce que ça tient la route, selon vous?
Écoutez, il y en a beaucoup. La toute dernière, c'est celle où Dieu s'adressait aux premiers musulmans en disant que voilà, vous allez rencontrer vos ennemis. Si vous vous montrez patient, un seul d'entre vous pourrait vaincre 20 ennemis. Par la suite, l'an khaffafallahu alaykum, un seul d'entre vous pourrait en vaincre 2. Et la question que s'est posée justement cet internaute, en fait c'est un érudit, c'est un professeur, mais bon, qui est beaucoup plus dans l'exégèse basée sur la rhétorique, le balagh. Et généralement, les juristes sont beaucoup plus dans l'aspect littéral du verset, parce qu'ils sont censés déduire beaucoup plus des commandements divins que des recommandations d'ordre spirituel. Et là, lui, la question qui s'est posée, Comment se fait-il que les gens de Gaza soient aussi forts de caractère, aussi forts dans l'action qu'ils ne le sont? Un médecin fait le travail de 20 médecins, une infirmière fait le travail de 20 infirmières, un combattant. N'oublions pas que jamais une communauté, quelle qu'elle soit, n'a eu à combattre la terre entière. Les Algériens s'enorgueillaient du fait que, vers la fin de la colonisation française, nos combattants avaient face à eux l'OTAN.
Exactement.
Bien sûr, sous couvert. Mais là, nous avons toute l'Europe, les États-Unis, toutes les grandes nations, l'OTAN, qui a fourni des armes, de la logistique, il y a eu des mercenaires, il y a eu même, c'est vendu des pays arabes qui ont envoyé des soldats, des avions. C'est eux qui assurent la réanimation de la société dite israélienne. Et donc, la question, il se l'est posée, il a expliqué pourquoi. Mais il y a énormément de versets, de hadiths, etc., qui concordent parfaitement avec ce qui se passe actuellement en Palestine. Vous savez, il va falloir commencer à ne plus parler exclusivement de Gaza, parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Ouais. Et je pense que dans l'esprit des gens, il va falloir sortir de cette idée de prier pour Gaza, acheminer de l'aide pour Gaza. Non, c'est toute la Palestine. Et puis au-delà de Gaza, la question...
Même ceux qui ont été solidaires, par exemple le Yémen, comme
oui, absolument.
Qui a mené une guerre contre pratiquement tout l'Occident.
Mais au-delà de Gaza, il y a Beit al-Maqdis.
On ne sait toujours pas s'il va être détruit ou pas, Kamel Chakat.
Ils vont essayer de le faire, mais bon...
Est-il clair dans les hadiths eschatologiques? Est-ce qu'on avancé?
Nous n'avons de prédiction de ce type que concernant le Kaaba.
Avec Dassoui-Qatay. Oui, mais Beit al-Maqdis, il n'a jamais été dit que ce sera détruit. Hein.
Non. Quand on analyse bien les choses, je pense que le Kaaba pourrait être détruite dans la mesure où ceci fait partie déjà des signes eschatologiques ou des signes avant-coureurs de l'heure dernière. Ça concernera donc une épreuve, ça sera une épreuve pour tous les musulmans.
Détruite à tout jamais, elle ne sera pas reconstruite.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, Beit al-Maqdis, non. Parce que, vous savez, il y a une logique dans la manière dont Dieu, subhanahu wa ta'ala, gère les choses. Je vais essayer d'expliquer ça, c'est un peu subtil. Vous voyez, quand Dieu, subhanahu wa ta'ala, parle des femmes de Nuh et de Lot, alayhi salam. Darab Allahu matalan lilladina kafaru. Dieu donne en parabole pour ceux qui ont mécru les femmes de Noé et de Lot. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. Elles étaient sous la direction de deux de nos serviteurs, des gens vertueux, elles les ont trahis. Les exégètes et les spécialistes du Coran vous diront que khanatahuma ici, elles les ont trahis. Il s'agit de la trahison concernant la foi, c'est-à-dire qu'elles se sont détournées des commandements de Dieu.
Pas une trahison de la chair ou autre.
Non, pas du tout. قالوا لأن الله تبارك وتعالى لا يبتلي الرسل والأنبياء في شرفهم. L'épreuve est trop difficile. Dieu n'éprouve pas ses messagers et ses prophètes dans leur honneur. Parce que la chose, elle n'est pas du tout...
On a tenté de le faire avec Sayyida Aisha. Sayyida
Aisha. وبرأها الله تبارك وتعالى. C'est Dieu qui l'a disculpé. Oui. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il défie ses ennemis, il va au plus loin en les défiant. Et là, je pense que, avec tout ce qui a été entrepris par les sionistes, par les rabbins, etc., pour détruire Beit al-Maqdis, non seulement ils n'ont pas pu le faire, mais je pense qu'ils ne le feront pas parce que cet échec, le fait que tout leur stratagème soit anéanti par Dieu, fait partie intégrante du défi qui leur est lancé.
On a vu récemment, Kamel Chakat, un certain Netan dans les sous-sols de Beit al-Maqdis annoncer qu'il y aurait des bicharats très très bientôt pour cette entité criminelle.
Oui, mais le problème c'est qu'ils sont tombés sur, comme dirait l'autre, sur un os, dans la mesure où ils ont trouvé un amphithéâtre romain avec des pièces romaines remontant à je ne sais où. Non, je pense même avant les Romains, ce qui exclut toute idée de présence israélite dans cette zone.
Kamashakat, pour terminer ce petit chapitre avec lequel nous avons commencé autour de la sourate Al-Ahzab et comment elle a été expliquée par ce jeune savantissime. Le premier verset, Kamashakat, le verset 23, c'est « Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alayhi fa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila ». Alors, il y a eu des morts, il y a eu ce qu'il y a eu. Le premier verset concernerait le déluge d'Al-Aqsa. Ici, ce savant explique que Dieu subhanahu a mis en avant ce petit groupe qu'il a sélectionné pour Nusrat al-Haq.
Oui.
Mais qu'il a fait aussi tomber les masques.
Mais attendez, la même chose pourrait être dite concernant, par exemple, les premiers jeunes combattants
oui.
de l'armée de libération nationale.
Oui.
On a dit
chacun
certains...
pouvait l'interpréter à
Bien
sa
sûr,
façon.
Bien sûr, parce
oui.
que là nous, selon sommes son vécu. Dans, là, nous sommes beaucoup plus dans ce que nous appelons les Sunan al-Kawniya, c'est-à-dire les lois immuables de Dieu. Chaque fois qu'il y a une épreuve, qu'il y a une confrontation entre le bien et le mal, vous avez une partie qui fait le bon choix, vous avez une partie de traître qui fait le mauvais choix, et quand la bataille commence, quand la confrontation commence, Dieu subhanahu wa ta'ala donne à ceux qui étaient véridiques l'ascendant sur leur détracteur. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que doivent marcher les choses.
C'est si pour ça qu'il est salih en école les amanin wa makan furqan. Alors le verset 24 Kamal Shakat, le verset 24 nous dit yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adib al munafiqina in sha'a aw yatuba alayhim inna Allaha kana ghafuran rahiman. Et bien là on a vu les croyants et les hypocrites.
Oui.
Les croyants ont eu ce qu'ils voulaient et ce qu'ils attendaient, l'irtiqa, shahada.
Oui.
On les a vus, Ismail Haniya, Sinwar, Yahya Dif et beaucoup d'autres, hein, sans les citer tous. Mais on a vu aussi ceux qui se prétendaient du côté de l'islam, mais qui finalement ont choisi un tout autre camp.
Oui.
وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Et là, ce savant fait allusion à la hudna, à la trêve signée récemment. Hein.
Oui.
Et donc, cette entité criminelle a été vaincue. Il n'y a pas eu de victoire pour elle.
Normalement, c'est clair.
Mais le verset 26 et ce verset 26 Kamal Shakat, selon l'auteur de cette thèse, de cette étude, correspondraient à l'année 2026 et les événements qui vont s'y dérouler. Il est le seul à connaître
l'invisible.
Exactement. Le verset 26 nous dit « وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ » Ceci est le verset 27 « وَأَوْرَثَكُمْ أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. Et c'est là où l'on est pile poil face à la prophétie de Cheikh Yassine alayhi rahmatullah. 2027, c'est l'année où les musulmans récupéreront l'ard.
Oui, mais bon, le seul problème dans mon cerveau avec
oui,
ce que vous venez de dire, وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ, il vous a donc donné leur terre.
C'est ce qu'il considère.
Possible.
Cette
oui,
entité considère que c'est
oui.
sa terre, hein, millénaire. Et...
Mais ça n'a jamais été leur terre. Hein. Tout ouais. le monde le sait. Même, c'est-à-dire que si nous disons cela, nous nous basons essentiellement sur ceux des leurs qu'ils considèrent comme étant des révisionnistes.
Oui.
Bah, le révisionnisme, finalement, c'est toute une branche de l'histoire
ouais.
liée à l'entité sioniste qui dément les mythes fondateurs de cet État.
Ils sont nombreux actuellement, Kamal Shakat.
Oui, oui.
Alors, Kamal Shakat, nous sommes depuis quelques semaines dans un concept qui viserait à nous aider à consolider notre foi et par là même notre conformité à l'islam, donc à corriger nos fausses croyances, nos limites et même nos nouvelles libertés à travers une plus grande science ou conscience aux choses de la religion. Et n'est-ce pas que « Man arafa nafsahu arafa rabbah »
C'est clair.
Alors, vous nous proposez, Kamal Shakat, dans cette série d'émissions, de faire notre immersion dans le Coran, mais autrement que ce que nous avons l'habitude de faire.
Absolument. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons choisi de... Ça a un rapport, bien entendu, avec l'abrégé de l'imam Abdurrahman al-Akhdari, rahmatullahi alayhi, un grand savant algérien qui était aussi un scientifique dans la mesure où il était astronome, logicien, était aussi...
Mathématicien.
Oui, mathématicien.
Logicien, ouais.
Oui, c'est une série de versets. D'ailleurs, que je vais reprendre lors des matinales.
Et que nous allons devoir travailler, même durant Ramadan, avec Mandomut l'Akhdari fait tasawwuf.
Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, Inch'Allah, nous allons le
Rabbi
faire.
Qadarna.
Pour sortir un peu du cadre, on va dire.
Du soufisme oriental. Ibn Atta al-Sakandari et tout. Les nôtres aussi s'y sont initiés.
Vous savez, tous les grands soufis, c'est-à-dire tous ceux qui ont donné un bel enseignement sans nos maîtres, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident. Par Occident, c'est le Maghreb. Hein. Je ne fais aucune distinction entre... Il y a le soufisme dit l'Ishraqi. Honnêtement, c'est un peu tiré par les cheveux. Là, je vous parle de, par exemple, le Suhrawardi, qui était le mauvais Suhrawardi.
Omar ou l'autre?
Pas Sahib ou Awarif al-Ma'arif. J'exclus des gens comme celui qu'on a appelé l'imam al-Akbar. Ibn Arabi, rahmatullahi alayh.
L'émir Abdelkader ne serait pas d'accord avec vous, Kamal Chakata.
Non, je l'exclus de cette catégorie de gens qui ont dévoyé le soufisme.
Très bien, oui, je suis d'accord avec vous.
Parce que c'est quelqu'un qui est... Ses écrits sont trop relevés. Moi-même, je n'arrive pas à les comprendre. Oui. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois qu'on me pose des questions sur... Ibn Arabi, parce que vous avez beaucoup de ceux justement qui vous disent non, il faut se tourner beaucoup plus vers Dieu que vers la Kaaba. Écoutez, la majorité d'entre vous instrumentalisent Ibn Arabi alors qu'ils n'y comprennent absolument rien. Le problème est là. Moi, quand je vois le produit de sa quête, le produit de son aboutissement, le produit de sa philosophie, en la personne de l'Amir Abdel Qadir ou bien Abdel Ahad Yahya, alias René Guénon, je me dis, toi mon petit, tu n'as absolument rien compris à ce que dit cet homme. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient dans un soufisme très très sophistiqué, qui avait aussi un très très bon comportement, mais que je n'arrivais jamais à comprendre. Et une fois, je discutais avec quelqu'un, c'est un érudit, hein, qui m'a dit, écoute, Ibn Arabi, si tu veux vraiment bien comprendre, il faut lire ça auprès d'un maître.
Oui.
Quelqu'un qui a de l'expérience avec Ibn Arabi, quelqu'un qui a fait un cheminement, qui a une expérience en la matière, tu peux pas lire ça, Ibn Arabi tout seul. Et Dieu m'est témoin qu'à chaque fois que je me suis mis en tête de lire, de me forcer à lire Ibn Arabi, j'arrive à peine, mon record c'est la 15e page. À la 15e page, j'ai le cerveau qui brûle et puis ça va, je peux plus continuer. Donc honnêtement, quand je vois certains hurluberlus qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qui ne cessent d'écrire sur la toile et qui disent n'importe quoi au nom de l'islam et qui proposent n'importe quoi, je suis désolé, vous n'avez absolument rien compris à Ibn Arabi. Donc
c'est très bien expliqué, Kamal Chakat, hein, par l'imam Malik rahmatullahi alayh, man tafaqqaha wa lam yatasawwa faqad tafassaq wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaq wa man jama'a baynahuma faqad.
C'est clair. Ouais. C'est pour ça que les grands soufis parlent de sharia et de haqiqa.
Ouais. Et puis tariqa.
Tariqa, oui. Sinon, ça ne marche pas.
C'est un tout.
Oui. Et donc,
parce que nous voyons aujourd'hui quelques-uns nous dire, moi je suis soufi, et quand vous voyez leur mode de vie, rien à voir avec l'islam.
Le soufisme à la, je ne sais pas moi, à l'européenne.
Ce n'est pas une philosophie stoïcienne, le soufisme.
Oui, c'est clair, c'est clair. Vraiment, il y a beaucoup de choses à revoir et puis on ne joue pas avec Dieu, subhanahu wa ta'ala.
Alors, dans les émissions précédentes, Kamal Chakat, nous avons fait notre immersion dans trois versets du Coran.
Oui, c'était alors au début, c'était le paradigme, c'est « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous avons expliqué que c'est une formule qui ne concerne pas uniquement le malheur qui s'abat sur l'un d'entre nous. Ensuite, c'était pour donner du positivisme, c'était « Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim ». La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Donc le repentir est toujours là pour pallier à nos manquements. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la proximité que nous pourrions avoir avec Dieu par le biais du 186e verset de sourate Al-Baqarah. Wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Il n'a pas dit qul inni qarib fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un verset qui est intimement lié à la situation actuelle et qui va nous décharger de toutes les phobies, de toutes les peurs qui pourraient nous paralyser, nous tétaniser, nous rendre incapables de procéder à une action. C'est le verset 51 de sourate Tawbah qui dit « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » dit « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Donc c'est un verset normalement qui a toujours été la devise de ceux qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Surtout les musulmans qui devaient faire face à leurs ennemis.
Est-ce qu'on a les conditions de sa révélation? Est-ce qu'on sait quelque chose au sujet de ce verset?
Par ce verset, c'est Dieu qui exhorte ou qui recommande à son messager, alayhi salatu wassalam, de répondre à ceux qui doutaient de cette affaire avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, makana alayhi amruh. Et donc voilà, si vous doutez de tout cela, dit rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous. Bien entendu, ici, quand nous parlons de qada et qadar, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Parce que nous avons déjà expliqué en quoi consiste le qada ou le qadar. Il faut bien savoir que notre vie sur Terre n'a pas été pré-réglée. Ce que nous vivons, ça n'est pas un scénario qui a été écrit avant que nous ne venions ici. Et donc, tout ce que nous faisons s'intègre ou s'inscrit dans une fatalité face à laquelle nous n'avons aucun libre arbitre, aucun choix. Non, l'écrit, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Nous allons agir. Et puis ce qui arrivera, devra fatalement arriver, parce qu'il fait suite ou il fait office de conséquence de nos actes, bonnes ou mauvaises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais me permettre de réexpliquer la chose, puisque nous parlons de Mektoub. En fait, pour bien comprendre le Mektoub, il faut se placer sur l'axe du temps. Pour nous, les êtres humains, le temps va du passé vers le futur, comme le diraient les physiciens, de manière inexorable. Pour Dieu, le temps, c'est une création, c'est le temps qui fait partie de Dieu. Dieu n'est pas inscrit dans le temps. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu nous met en scène des choses, des scènes de l'heure dernière, il en parle au prétérit, au passé. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ قَالُوا كَدَا وَقَالُوا. Ça veut dire que, voilà, ce qui va advenir de vous, ce qui va venir dans des temps qui sont très très peut-être lointains par rapport à ce que vous vivez, pour moi qui est votre créateur, c'est du passé. Et tout comme vous avez, vous, la faculté de lire dans votre passé, de ressortir certains faits de votre passé, c'est-à-dire vos souvenirs, moi je suis en mesure de voir ce qui va se dérouler pour vous. Car ce qui va se dérouler pour vous, c'est déjà déroulé sous mes yeux parce que j'ai la capacité de lire dans ce que vous appelez l'avenir. Et quand nous parlons de cela en langue arabe, nous disons « Hada ma sabaqa fi ilmillah ». C'est ce qui a précédé dans la science ou dans la connaissance de Dieu. Et donc quand Dieu a créé le kalam, la plume, il a dit « Écris, qalama aktubu ya Rab ». Qu'est-ce que je dois écrire au Seigneur? Écris tout ce qui se déroulera jusqu'à la fin des temps. Ce qu'Allah a écrit, ce que nous avons fait, en choisissant pleinement ce que nous avons fait. Alors là, quand il est dit « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا », certains pourraient venir me dire « Voilà, nous allons essayer de rapprocher cela de ce qui se passe actuellement, de l'actualité. » Voilà, nos frères en Palestine, le 7 octobre, ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. Et donc, ce qu'ils sont en train de subir est une conséquence de leurs actes. Donc, il ne leur arrive que ce que Dieu a prescrit pour eux, dans la mesure où Dieu a prescrit ce qu'ils ont fait avec les conséquences de ce qu'ils ont fait. Oui, d'une part, c'est vrai. Mais il ne faut pas prendre les choses sous cet angle. Je m'explique. Moi, j'agis. J'agis en bien, je vais récolter du bien. J'agis en mal, je vais subir les conséquences de mon acte. D'accord ? Vous prenez une mauvaise décision, vous allez le payer cash. Vous êtes en train de subir les conséquences de vos actes. Mais là, nous sommes dans une situation où l'appartenance au genre humain, ce que Dieu nous a prodigué, ce que Dieu nous a donné avant même de nous placer sur terre, fait que nous devons être à la hauteur de cet honneur. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Nous avons en fait honoré les fils d'Adam. « وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ » Nous avons transporté par mer et sur terre. « وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » Nous les avons nettement préférés à bon nombre de nos créatures. En vertu de cette appartenance au genre humain qui a été doté d'une intelligence, il ne sied pas pour un être humain de vivre dans la domination d'autres êtres humains. Nous n'avons pas le droit de subir l'injustice et de nous taire. Ça ne marche pas. C'est pour cela que le fait de s'opposer à toute forme d'injustice s'appelle djihad en langue arabe. Le mot djihad vient de la racine du verbe djahida qui signifie faire un effort. Et djihad ala ouzni fa'al, c'est un superlatif qui indique que quand vous êtes dans une logique de djihad, ça veut dire que vous avez fait un effort surhumain. Donc, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Ces gens-là, à un moment donné, ils se sont dit, voilà, on arrête les frais. Ça ne peut plus durer. 75 ans que ça dure, ça ne peut plus aller comme ça à l'avenir. Ils ont décidé d'entreprendre une action. Ça a coûté très cher, mais ça a eu le mérite de dévoiler toutes les injustices dont est coupable tout l'Occident judéo-chrétien, ou du moins qui se dit judéo-chrétien. Et puis, subhanallah al-adhim, vous avez d'une part les détracteurs de ces gens opprimés qui se sont fixés des objectifs, ils n'y sont jamais parvenus. Vous avez les théoriciens, les leaders de ce groupe opprimé qui, il y a 2 ans et même avant, ont dit « voilà, nous allons nous battre et voilà ce à quoi nous allons arriver » et ils sont parvenus à réaliser leurs objectifs.
Comme l'exemple de ces hommes et femmes de Gaza, de Palestine, qui ont décidé d'aller à leur sort. Oui. Selon Mohamed Al-Hassanat et beaucoup de témoignages, ces gens y ont été de leur plein gré. Ces gens étaient bien préparés sur tous les plans, même sur un plan spirituel. Parce que la veille, le 6 octobre, il y a eu 3000 apprenants aboutis du Coran. Donc ces gens étaient prêts à aller jusqu'au bout. Ce verset quand
Oui, alors le mot musiba signifie malheur. Mais quand vous dites qul lan yusibana, ça veut dire il ne nous atteindra que ce que Dieu a prescrit pour nous.
Donc là, c'est le hadith du prophète.
Ça peut être yusibuni. Ça revient à ce fameux hadith d'Ibn Abbas. Oui, il dit kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma jitta assis en groupe derrière le messager de Dieu, donc ils étaient sur la chamelle. Qala ya ghulam, ô jeune garçon, inni u'allimuka kalimat. Je vais t'apprendre ces quelques paroles. Ihfadillaha yahfadhuk. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Garde ce que Dieu te recommande ou te commande, il te gardera et tu le trouveras toujours devant toi. Ihfadhu tajidhu tujahak. قال اذا سالت فاسال الله. Si tu demandes quelque chose, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala. واذا استعنت فاستعن بالله. Si tu demandes une aide ou un secours, demande-le à Dieu. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. Et sache que quand bien même la communauté tout entière s'unirait pour t'être d'une aide quelconque, elle ne pourrait le faire que dans la mesure où Dieu l'aurait décidé en ta faveur. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ ou bien وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Et si la nation tout entière s'unirait pour te faire quelque mal, elle ne pourrait t'atteindre que dans la mesure où Dieu l'aurait décidé contre toi. Ensuite, il dit, quand il dit « Rufi'ati l'aqlam wa jaffati s-suhuf », ça veut dire que voilà, les calames, les plumes, Oui, les plumes de la prédiction, en quelque sorte, se sont levées, c'est-à-dire qu'on n'écrit plus, tout a déjà été écrit. Ça veut dire que l'encre avec laquelle tout a été écrit est désormais sèche. Les dés sont jetés, comme dirait l'adage.
Mais quel yaqin, comme chacun, quel
oui,
yaqin.
C'est ça, franchement, ceux qui disent « Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana », ils l'ont dit à juste titre, dans la mesure où voilà, moi, j'agis en voulant bien faire ou avec animé, je suis animé d'une bonne intention et donc je me défends parce que vous savez, ne pas se défendre contre l'injustice, c'est un manquement vis-à-vis de Dieu.
Wow.
Se taire devant la justice, c'est une forme d'hypocrisie. Puis le problème ne réside pas chez les gens qui font du mal sur cette terre, mais chez ceux qui se montrent, passibles devant ces méfaits. Ceux qui ne disent rien sont plus fautifs que ceux qui font du mal.
Kamal Chekat, certains disent que se taire, c'est une façon de sauvegarder ses intérêts et de réduire le degré de nuisance.
Oui, attendez, ça a été dûment prouvé par l'expérience humaine. À chaque fois qu'il y a eu des gens qui se sont tus face à l'injustice, ils ont à la fin fini par le payer, qu'on le veuille ou non. Un despote, quelqu'un qui fait dans l'arbitraire le plus total, quand il voit que vous n'avez en vous rien qui puisse vous placer en opposant à ce qu'il fait de mal, à un moment donné, il va finir par se montrer inique à votre égard. Ça nous rappelle cette histoire de Kalila Wadimna, le lion qui avait face à lui deux taureaux et qui savait qu'essayer d'en tuer l'un d'eux était peine perdue dans la mesure où les taureaux ils sont plus forts que le lion physiquement. Il a pu semer la discorde entre les deux, il a tué le taureau blanc, et le jour même où il l'a tué, le taureau noir, en voyant le regard que venait de lui lancer le tigre, il a dit « Ukiltu yawma ukila tawru l'abiyat ». Finalement, j'ai été dévoré le jour où a été dévoré le taureau blanc.
Ce jour-là, tout était scellé.
Absolument.
Alors, Kamashakat, « Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana », ça n'appartient pas à Musiba. Mais quel pourrait être ce type de Musab? Qu'est-ce qui pourrait nous atteindre, Kamal Chekat? Et puis insister sur « Illa ma kataballahu lana », pas « alayna ».
Lana, oui.
Ça veut dire que c'est pas mauvais.
Ça veut dire non, ça veut dire que là, nous plaçons notre confiance en Dieu parce qu'il est dit à la fin du verset « Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun ». Donc, c'est en Dieu, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Et à partir de là, moi j'ai confiance en Dieu, j'ai bonne opinion de Dieu. S'il m'arrive quelque chose de bien, tant mieux. S'il m'arrive quelque chose de mal, c'est un examen à passer. Ça s'arrête là.
Le prophète alayhi salatu wasalam dit « Kullul musibati ala al-mu'mini khayr ».
Oui.
Mais là, vous dites que ce n'est pas de ça dont il s'agit dans ce verset.
Non, ça pourrait être ça. Mais moi, je focalise surtout sur les conséquences de l'acte.
Oui.
Prenez l'exemple de nos combattants de l'armée de libération. Un petit groupe de jeunes, qui sont d'ailleurs les icônes, sont toutes mortes très très jeunes. Amirouch, Al-Hawass, Lotfi, Allah yarhamhum kamel. C'était des jeunes gens qui sont morts. Et quand vous voyez l'engagement qu'ils ont pris, ma foi, il nécessite des années d'expérience humaine. Je ne sais pas, moi, à près de 60 ans, j'arrive pas. Il m'est difficile de prendre une décision comme la leur. Ça n'est pas facile. Donc ces gens-là, quand ils se sont mis en tête d'aller faire ce qu'ils devaient faire, ils étaient bien conscients des conséquences. C'est ça, « Qul yusibana illa ma kataballahu lana ». Moi, je fais ce que je dois faire et advienne que pourra.
Comment devrait-on, Kamal Chekat, accueillir ou se comporter face à ce moussab?
Ça rejoint ce fameux hadith « Ajaban lil mu'mini fa inna amrahu kulluhu khayr ». Il était en émerveillement face à l'affaire du croyant qui était bonne, quelle que serait la circonstance. S'il lui arrive quelque chose de bon, il remercie Dieu et c'est tant mieux pour lui, ou bien c'est bon pour lui. S'il lui arrive quelque chose de mauvais, il se montre patient, endurant. Il peut même dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » pour atténuer la souffrance. Oui, l'istirja. Et c'est bon pour lui.
Mais on dit, Kamal Chekat, que ce moussab, plus il est lourd, plus il est pesant, plus ce musulman sera gratifié. Et
bien sûr, déjà
même si la peine est lourde.
Déjà, il faut comprendre une chose. Dieu éprouve les gens en fonction de leur foi. Ça, c'est un fait. D'un autre côté, il est vrai que plus la chose est affligeante, plus le salaire ou la récompense serait grande. Elle est généralement en rapport en termes de gravité, elle est en rapport avec ce qui pourrait nous arriver. Cela n'empêche pas le croyant de prier toujours Dieu de lui éviter les mauvaises choses. Ou d'être éprouvé dans sa foi, dans sa vie, etc.
Mais il n'est pas toujours facile d'avoir facile, ce souci en conscience.
Oui, absolument.
C'est pour ça doua Kamal Shkat, la marloufni khairan minha.
Oui, mais surtout, le fait de bien comprendre que nous ne sommes pas tous en mesure de nous montrer patients. Parce que la patience, sabru inda sadmatil oula, cette femme qui a perdu son enfant et qui a proféré des choses qui étaient aux antipodes de ce qui était souhaité par un croyant dans pareille situation, quand le messager de Dieu alayhi salam s'est adressé à elle, quand elle avait compris que c'était le messager de Dieu, elle a dit non, inna lillahi wa inna ilayhi. Il a dit non, sabru inda sadmatil oula. C'est pour ça que il ne faut pas souhaiter de se retrouver dans cette situation pour récolter un bon salaire, parce que certains sont dans cette ignorance. Et donc, voilà, il faut juste se préparer autant que faire se peut, du mieux que l'on puisse le faire, pour être à même de supporter ce qui est affligeant.
C'est pour ça que les anciens nous conseillaient de cultiver la présence consciente à Dieu, parce que Arif Hofir Racha et Arif Kafishidda. Kamal Shekat, nous avons appris à travers cette émission d'aujourd'hui comment s'affranchir de la douleur, de la peine, des méandres de la vie, du moment que kul musiba ala al-mu'min khair. Mais vous n'avez pas été trop clair sur cette question, hal musiba adl am dhulm ala al-muslim.
Écoutez, c'est une épreuve.
Si on part du principe que nous appartenons à Dieu, que nous sommes ses dévoués, ça ne peut pas être dhulm.
Normalement, non. Mais il se peut que vous subissiez quelque chose en guise de punition. Il faut se mettre ça aussi dans la tête.
Mais il est aussi dit comme al shakat que le qabd wal bast fil ashya' shay'an ala murad al fata qad la yaji an.
Oui. Donc ce que nous avons appris de nos maîtres, c'est que à chaque fois que nous avons un problème, je ne sais pas, vous êtes à la maison, vous êtes en train de vaquer à vos occupations et puis vous vous cognez la tête sur une étagère, sur n'importe quoi. Le premier réflexe du croyant est de dire Astaghfirullah.
Qu'ai-je fait?
Le mu'minu yattahimu nafsa. Ça veut dire que nous sommes toujours censés culpabiliser, sans pour autant faire de la culpabilité une philosophie dans la vie, comme c'est le cas, par exemple, pour le péché originel, et j'en passe. C'est dans cette logique qui fait quand même, dans une sorte de juste milieu, qu'il faut agir. Vous êtes affligé par quelque chose, essayez de prendre ça du bon côté. Et puis, comme nous l'avons normalement dit, ceux qui reçoivent ou qui font face à la douleur, ou bien à l'épreuve avec panache. Ceci veut dire que la chose a pour but de les éduquer, de les éprouver dans le bon sens. Ceux qui commencent à se lamenter, à crier, à vociférer, à injurier, ceci veut dire qu'ils ont reçu une punition, tout simplement.
Kamal Shekat, par exemple, pour mieux mettre l'auditeur dans une image réelle, la pauvreté après la richesse, est-ce que ça peut être une grande épreuve, musiba?
C'est une musiba, bien sûr que c'est une épreuve. Sauf que, voilà, il y a des gens qui ont subi cela et qui se sont rendus compte avec le temps que finalement cette épreuve a été plus que bénéfique pour eux. Dans la mesure où une bonne partie de ceux qui étaient extrêmement riches et qui ont passé des périodes difficiles ont réussi à relever le défi et à revenir à leur état initial. C'est-à-dire qu'ils ont pu redevenir aisés ou plus ou moins riches et ils ont compris que finalement, cette richesse, elle peut partir, elle peut revenir. Il est dans la capacité de l'être humain de redevenir riche après une pauvreté. Et c'est ainsi qu'ils ont compris que finalement, cette richesse, elle ne vaut absolument rien à côté de la santé. Elle ne vaut absolument rien à côté du fait que vous ayez des enfants qui fassent preuve de piété filiale à votre égard, qui sont intelligents, qui sont serviables, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais leurs richesses ne leur servent absolument à rien.
Surtout donc c'est... face à la perte de la santé.
Surtout, oui, surtout la santé.
Par exemple, on prend le prophète alayhi salam, Kamal Shakat, qui a demandé à Dieu subhanahu de le préserver de la pauvreté. Mais il a vécu pauvre, il a refusé la richesse.
C'était un choix.
Sayyida Aisha disait « Yamur alayna al-hilal wal-hilalayn »
Ilanu ya'ishuna min al-aswadayn. Ça veut dire qu'il mangeait des dattes et de l'eau, la majorité du temps. Mais ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. C'est-à-dire, c'est carrément un défi que le prophète, alayhi salatu wassalam, était en mesure de relever. Nous ne pouvons pas, eu égard à ce qui a été choisi par le prophète, dire au commun des musulmans que voici la voie à suivre. Non. Parce que, quand nous analysons bien les choses, Dieu subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire un certain nombre de choses qui nécessitent un minimum d'avoir. C'est-à-dire que pour donner votre aumône, vous acquitter de votre aumône légale, vous devez avoir un seuil minimal d'argent. Pour faire votre pèlerinage, il faut de l'argent. Pour être plus serviable, plus utile à la société, il est bon d'être bien nanti. Donc là, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, quand on lui a offert de choisir, il a préféré cette pauvreté. Pourquoi ? Parce que cette pauvreté vous maintient dans un état qui vous mette, on va dire, dans des conditions qui ne vous fassent pas sortir de la miséricorde de Dieu. Là, je suis en train de parler en faisant référence à un idiome que nous employons chez nous. Nous disons généralement « kharj min rahmat Rabbi ». Littéralement, il est sorti de la miséricorde de Dieu. Pourquoi chez les grands savants de l'islam, un riche qui se montre reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits vaut mieux qu'un pauvre qui se montre patient et endurant face à l'épreuve? Tout simplement parce que quand on est riche, on a accès à l'illicite. On a accès à ce que nous appelons en langue arabe le haram. Un pauvre ne peut pas avoir accès à cela. Et donc, quand on est bien nanti et que l'on sache faire bon usage de la fortune dont Dieu nous a gratifié, on a beaucoup plus de mérite.
Kemal Shekat, donc, si je comprends bien, et si l'on suivait cet exemple dans lequel nous avons évoqué le prophète alayhi
salatu
wassalam, on peut choisir nos épreuves. On peut choisir, comme ici, la pauvreté. Du moment que le prophète l'avait choisi.
Justement, c'est ce qu'il faut éviter.
Préférer l'isterna ?
Non, non. Un bon musulman préférera toujours et demandera toujours à Dieu de le gratifier, de lui donner, de lui accorder de ses bienfaits au maximum. Ça s'inscrit dans ce qui est le plus proche de la nature humaine. Nous aimons tous bien vivre. Nous aimons vivre à l'aise ou dans l'aisance, on va dire. Vous savez, Sidna Uthman ibn Affan a banni Abu Dharr al-Ghifari parce qu'il avait une vision justement de la vie qui favorisait, qui plébiscitait la pauvreté. À telle enseigne qu'Abu Dharr al-Ghifari, je me souviens dans les années, début des années 80 et même fin des années 70, 78, 79, on entendait surtout les théoriciens du socialisme et du communisme nous dire « Oui, l'islam, normalement, c'est le communisme, très proche du communisme. » Attends, l'islam proche de l'athéisme, soyons sérieux. Et là encore, je me rends compte que bon nombre de ces théoriciens ne comprenaient pas ou ne savaient pas quelle était l'origine du mot « communisme ». Donc, soyons sérieux. Et donc, on nous disait, Abu Dharr al-Ghifari, par exemple, Abu Dharr, qu'est-ce qu'il avait comme problème ? Il était du genre à ne rien laisser à la maison. Il pouvait recevoir, par exemple, 10 dirhams. Il allait peut-être utiliser un dirham pour acheter juste de quoi se maintenir en vie et dépenser le reste en aumône. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas du tout dans cette logique.
Ouais.
Il n'était pas dans cette logique pour sa communauté. Pour lui, il était dans cette logique, parce qu'il était prophète, parce qu'il était messager, parce qu'il était... Il était dans une sphère qui n'est pas la nôtre, commun des musulmans. Et donc, comme cette vision commençait à prendre de l'ampleur, Uthman ibn Affan l'a banni, carrément. Tu es aux antipodes de ce qui est souhaité. Uthman ibn Affan était un homme extrêmement riche, mais qui, nous le savons très très bien, a toujours pratiquement dépensé sa fortune au profit de la communauté musulmane. Donc, nous ne sommes pas tenus de véhiculer ce type d'idée, ce genre d'idée. Ce qui est souhaité, c'est d'avoir une vie décente. Si on peut vivre dans le luxe, rien ne s'y oppose religieusement parlant, à condition de faire bon usage de sa richesse.
Vous faites partie des rares personnes qui préconisent la richesse, Kamal Chekat.
Mais c'est bon d'être riche.
Pourquoi les autres ne vont pas dans ce sens?
Je ne sais pas. Écoutez, moi...
C'est pas un tort d'être riche.
Non, pas du tout. Tous ceux que j'ai connus qui étaient vraiment doués de savoir, Ahlul Ilm, tout ce beau monde-là était dans cette logique. Et beaucoup nous disaient, on ne comprend pas ces prédicateurs de la dernière heure qui incitent les gens à devenir pauvres.
Sauf si on a mal compris ce sens de l'fokr et de l'iftikar, Kamal Chekat.
Non, mon analyse de la situation est que bon nombre de ces gens-là étaient tellement complexés de par leurs conditions de vie qu'ils ont voulu en faire ou faire croire aux autres que c'était leur choix. Il y a beaucoup de gens qui... C'est l'histoire du loup qui n'arrive pas à atteindre la grappe de raisin. Nous, dans l'adage, nous disons le dib qui met l'hakshlane biqul qaras. Il est aigre ou il est acide.
Hamed.
Dans la littérature arabe, il est dit que quand il n'a pas pu atteindre la grappe, il a dit Allahumma la tad'alana min rizqin harama. C'est devenu carrément illicite. Non. Il y a beaucoup de gens qui sont justement dans cette logique. Ils ont une haine terrible pour le riche, ils sont envieux, et à partir de là, ils vont vous expliquer que voilà, non, on devrait, soyez un peu plus, c'est Omar ibn Khattab qui le disait, soyez un peu plus
rude,
oui, soyez un peu plus rude dans l'éducation de vos enfants, parce que ce faste dans lequel vous vivez, il se peut qu'il disparaisse. Bien sûr, c'est une chose à intégrer dans sa vision du monde, mais...
Mais il se peut aussi qu'il s'éternise, Kamal Chekat.
Bien sûr. Et donc, l'idéal pour un musulman, c'est d'être aisé, pour pouvoir vraiment s'acquitter de toutes les obligations religieuses, et pour pouvoir être utile à la société. Il n'y a pas mieux. Et tous ceux donc qui ont fait l'éloge de la pauvreté sont généralement des gens qui n'ont pas pu devenir riches. Pas plus ni moins. Ça reste un avis.
Alors Kamal Chekat, pour terminer l'émission d'aujourd'hui, avec ce verset qui a été notre ligne conductrice, « قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا »
ne nous atteindra que ce que Dieu nous a prédit ou nous a écrit, si on veut prendre les choses de manière littérale.
Alors je voudrais clore avec la citation d'un grand monsieur, un grand théologien algérien qui est des hauts plateaux, qui occupe aujourd'hui un poste très honorable et honorifique, qui est très présent sur les médias d'ailleurs numériques et que j'aime beaucoup. Il nous dit ceci, et à vous...
Il s'agit de qui? Je dois deviner. Allez-y.
Docteur Mbarouk Zid El-Khair.
Allah ybarak, oui.
Quelqu'un de très sensé.
Je dirais même, dernièrement, je suis allé lui rendre visite. Il fait partie d'un consortium, d'un groupe de gens qui sont en train de travailler sur ce qu'on pourrait appeler l'encyclopédie coranique. Un travail qui se fait avec un groupe de chercheurs incroyables, dont Dr Safi. J'invite les gens à voir les posts de Dr Safi.
Qui est-il, Dr Safi?
C'est un Algérien qui vit à Chérika et qui travaille justement sur ce projet, et dont fait partie Cheikh Dr Mbarouk Zid El-Khair. Et il nous parlait comme ça, il a dit, on m'a envoyé, donc parce qu'ils sont constamment dans l'exégèse du Coran. Il a dit, j'ai travaillé sur tel verset, sur telle sourate, donc un petit texte même de la sourate, et je devais travailler, faire dévoiler les subtilités de ce groupe de versets qu'il devait étudier. Et il a dit, j'ai donné plus de... Ça veut dire que nous étions là à nous regarder. Moi, vous m'auriez donné cette sourate. Oui, j'en aurais peut-être trouvé 5 ou 6. Et le problème, c'est qu'il était dans son petit coin à écrire comme ça, mais de mémoire. C'est-à-dire que moi, j'aurais eu besoin d'allumer le laptop et de me mettre au coin même de ma petite bibliothèque pour essayer de trouver tout cela. Vous auriez trouvé une multitude de livres par terre ouverts, pour essayer de capter toutes ces subtilités. Rabbi hafdou inchallah.
Alors, docteur Mbrouk Zid al-Khir nous dit Mas'alatul ghina wal faqri laysat fil mali al-maqboud.
Donc la question de la pauvreté et de la richesse ne réside pas dans l'argent, dans ce que nous avons entre les mains, comme fortune cumulée, oui.
Wala fil hiyaza, wala fil aqarat. Voilà, fait d'or.
Donc, ça ne réside pas dans ce que nous possédons comme immobilier, argent mis de côté, etc.
Voilà, fil mamloukat, voilà, fil maskoukat.
Bon, mamloukat ou maskoukat, ça veut dire les avoirs, qu'ils soient numéraires ou autres.
Voilà, kin al-amra ma yamlikuhu l'insan wa min dinin wa min imanin wa min akhlaq wa min izzati nafs.
Donc, la véritable richesse ou la véritable fortune, c'est ce que possède l'individu, la personne. Donc, religiosité, foi, comportement ou vertu.
Vertu.
Donc, grandeur d'âme ou de dignité. Et certitude. Ceci vaut beaucoup mieux pour lui que l'argent ou la fortune qu'il a amassée.
Oui. Votre avis, Kamal Shekhat?
Oui, bien sûr, c'est une bonne vision. Et le fait d'avoir dit ça n'exclut pas que la richesse peut être bonne ou est bonne pour l'individu. Sauf que les gens véritablement riches sont des gens qui ont des fortunes, mais qui savent prendre la chose avec philosophie. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que cette richesse qu'ils ont, ça n'est pas, ou que cette fortune qu'ils ont, ça n'est pas leur véritable richesse. Et c'est pour cela que, quand on est dans cet état, on devient riche et on le restera, même si cette fortune venait à disparaître. Parce que la véritable richesse, c'est ce qui reste justement au fond du cœur. Face à ces gens riches, vous avez des gens qui ont vécu dans la pauvreté la plus absolue, qui ont amassé des fortunes inestimables, mais qui restent pauvres. C'est pour cela que vous avez, dans cette vie, vous avez des gens qui deviennent de ce fait de nouveau riches, et avec le temps, ils deviennent de plus en plus riches du fait qu'ils prennent conscience que la fortune, ça n'est pas la véritable richesse. La véritable richesse, c'est d'avoir une bonne santé, de bons liens avec son entourage, etc. Il y en a d'autres qui peuvent rouler en véhicules qui coûtent 4-5 milliards, comme nous le voyons actuellement, mais qui sont des anciens pauvres. Il y avait une personne du Sud qui nous disait « Hada bihju aqdim ». Il y a des gens qui ont vécu dans la famine et la famine n'a pas voulu les quitter, malheureusement pour eux.
Quelqu'un disait dans la philosophie stoïcienne « Ne fais pas que tes habits valent mieux que toi ».
Oui, alors que les gens riches, ils peuvent porter des habits achetés dans une friperie et c'est eux qui font la beauté de l'habit. C'est pas l'habit qui les fait.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله.
نعم.
Donc صبر va avec taqwa.
Absolument.
Je vous remercie Kamal Shekhat et c'est ainsi que nous terminons ce numéro d'aujourd'hui dédié au quatrième point ou à la quatrième clé qui nous aiderait à nous affranchir de tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas, qui est d'importance matérielle dans cette vie, qui pourra faire notre bonheur mais qui n'est pas la seule source du bonheur.
Inch'Allah.
Merci à vous et à vendredi prochain. Au revoir.